France Inter.
C'est le moment original. Lisa Delmoitié, Camille là-bas, Bruno Pécri, Daniel Morin, Tanguy Bossureau,
bonjour,
et nos invités Valérie Donzelli et Bruno Pascal.
Bravo.
J'ai fait un mash-up très bizarre.
C'est cadeau.
Je vous expliquerai pourquoi. Allez, vas-y.
C'est l'impulsion.
Non, parce que je
Bruno Guillon.
Exactement.
Oui, Bruno Retailleau.
Pas les mêmes rêves.
On a dit qu'on n'en parlait pas.
Pas les mêmes rêves. Bastien Bouillon et Valérie Donzelli sont nos invités pour démarrer une émission dans un nouveau studio. Enfin, il n'est pas nouveau le studio, il est nouveau pour nous.
C'est pour nous récompenser des audiences.
Et donc, on est
en studio.
Et donc, on est. Ah, il n'y a plus Daniel avec toi, non.
Daniel à ma droite, généralement.
J'ai cassé le couple.
Ah,
je me mêle de votre vie privée.
Vivement la pause.
C'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Ce qui est passionnant, c'est le plaisir qu'on a eu à voir à pied d'œuvre. On va parler de ce film qui est l'adaptation du roman de Franck Courtès qui sera avec nous tout à l'heure. Valérie Donzelli, c'est un livre que vous aviez lu ou qu'on vous a proposé en disant il faudrait que tu lis ça, ça pourrait faire un film. Dans quel sens ça s'est passé ?
Non, c'est un livre que je voulais lire et que l'on m'a proposé. Et c'est ma monteuse Pauline Gaillard, où je suis allée dîner chez elle. Et elle venait de le terminer. Il était sur sa table de salle à manger.
Et vous l'avez volé.
Non, je l'ai pas volé.
Elle me l'a dévoré.
Ouais. Ah, non, elle me l'a offert. Ouais. En fait, j'en avais entendu parler du livre. Je dis, mais c'est quoi ça? Et elle me dit, c'est le livre. Elle me dit, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et donc, je suis repartie avec ce
point de départ, ce photographe qui vit de son métier et de sa passion. Mais qui a une autre passion, celle de se mettre à écrire, au risque de rencontrer, de vivre une réelle pauvreté. Petit tour de table de savoir s'il y a eu des moments dans votre vie où vous vous êtes dit, là, je suis vraiment dans la galère. C'est-à-dire,
aujourd'hui.
Le plus bas. Le plus bas de ce que je peux toucher. Lisa, des moitiés.
Par où commencer? tellement de métiers... où je savais pas. J'ai été chargée de communication pour la Fédération européenne de géologie.
Un jour dans ta vie où tu de quoi?
Fédération européenne de géologie.
Bah ça va, c'est un métier quand même.
Oui, mais enfin.
Oui, non. Alors moi je parle de la pauvreté, c'est-à-dire de dire là aujourd'hui, je suis dans la merde la plus totale. Mmh. Ouais.
Journaliste freelance.
Ok, ouais. C'est à ce moment-là. Ouais. Camille.
Moi, mes débuts à Paris, en tant qu'étudiante, j'avais 3 boulots en même temps et il fallait vraiment que j'aie les 3, quoi.
Voilà. Pour pouvoir avoir le niveau parisien.
Être à la hauteur de Paris.
Ouais, des loyers, du niveau
du match
de vie. Léla, est-ce que tu as eu ce moment où on a le sentiment de toucher le fond?
Oui, quand j'ai quitté mon métier de prof, qui n'était pas non plus payé des 100 et des 1000, et que je suis devenue journaliste, et que je suis arrivée à Paris, et que même chose, il fallait avoir des idées.
C'est fou comme le niveau de vie parisien, c'est la barre à franchir. Ouais.
Non, c'est marrant, c'était avant d'arriver à Paris.
En Suisse, j'étais au top.
Non, pas du tout, en Suisse, c'était très compliqué, parce qu'il y avait une période où je gagnais seulement 5000 balles par mois. J'arrivais pas à joindre les deux bouts.
Il déconne Valérie, je vois la tête de Valérie.
Non, mais c'est pas ça, c'est en fait ce que je... Mais j'avais compris. Mais en fait,
c'est une vanne qui n'a pas marché. Vous avez vu la tête,
vous avez fait. Non, mais parce que je suis concentrée, ça m'intéresse vachement ce débat de quand est-ce que vous avez touché le fond, etc. Ouais. En fait, la situation, c'est surtout l'idée du salaire mensuel. C'est-à-dire que quand on n'a plus de revenus réguliers, c'est là où ça devient compliqué.
En fait. C'est pour ça que
les artistes sont souvent dans la merde.
Excusez l'instabilité. Gros mot,
mais parce qu'en fait, il n'y a pas la sécurité de l'emploi.
Mais pas que les artistes, les journalistes.
Mais oui,
moi j'étais pigiste, on ne savait pas combien de papiers on vendait.
Les musiciens, les acteurs,
les journalistes,
l'intermittence.
Nous, on a l'intermittence. Non, mais là, pour les artistes plastiques, par exemple, là c'est vraiment...
Donc Bruno, toi, à part la vanne, évidemment...
J'ai eu de la chance de commencer très jeune et de gagner des sous avec ça, donc j'ai jamais eu de gros soucis financiers.
Daniel ?
Suis-je vraiment sorti de la dèche ? C'est ça la vraie question.
Est-ce que tu l'as connu vraiment un jour ou pas?
Non,
jamais. Non, c'est bien, c'est honnête de le dire. Oldelaf?
Moi, un petit peu.
Tu es dans le noir le plus total.
Ouais, c'est ça. Mais je trouve que ça lui va bien.
Je voulais pas bronzer aujourd'hui.
On a tellement honte.
Moi, j'ai fait pendant le Covid ce qu'on va appeler maintenant une Bastien Bouillon dans à pied d'œuvre. J'ai fait des chantiers, en 2020. Donc,
plein de petits jobs.
J'ai travaillé chez des gens, mais vraiment, j'ai bricolé parce que je sais à peu près bricoler. Donc, j'ai fait des chantiers chez des.
D'ailleurs, ma douche fuite encore.
Eh bien, je pourrais t'aider.
Elle fuite.
Oui, c'est ça.
Taux d'orthographe aussi.
Il faut être surtout. Ouais.
Jamais vraiment été au fond du trou, parce qu'en réalité, c'est quand j'étais très jeune et j'avais pas besoin de grand chose. Donc tout va bien. Ça dépend à quel moment de la vie ça arrive aussi.
Alors
quoi.
Ouais, bah, alors justement, voilà.
J'avais besoin de rien.
Parce que on en avait déjà parlé. Je sais plus à quelle occasion. En faisant un tour de table comme ça, mais en quittant le sud de la France, en venant à Paris, en disant je vais faire de la radio, je vais faire de la télé, et en fait aucune porte ne s'ouvrait, mais à rien, walou. Quand tu te retrouves à dormir dans la voiture, dans le parking, à sortir du parking en collant la voiture de l'autre côté pour pas avoir à payer le parking, et avoir de temps en temps ta mère au téléphone qui dit j'ai reçu des amendes pour la voiture, parce qu'évidemment c'était l'adresse, voilà, et que elle commençait à être saisie des conneries que tu fais toi, là tu dis ça devient dangereux et entre guillemets précaire. Après on a eu la chance de ne pas dormir sous les ponts ou de ne pas mourir de faim, et c'est ce que vit votre personnage, Bastien. Alors avant d'en arriver au personnage et à Pied d'œuvre, est-ce que vous dans votre vie perso vous avez connu des moments comme ça fragiles où vous êtes dit c'est chaud pour demain?
Non, jamais autant que le personnage. Tondre une pelouse pendant une demi-journée pour 18 euros, je vais vous dire, non, ça m'est jamais arrivé.
Au sécateur. Ah. Tondre une pelouse au sécateur.
Ouais, au sécateur en plus. Ouais. Non, il y avait des moments où mais c'est des problèmes de petits bourgeois. Si j'avais envie de voler du miel, si j'avais envie d'acheter du miel, de manger du miel, je le volais parce que ça coûte cher un peu de miel.
Pareil,
mais voilà, mais c'est pas.
Non, mais c'est vrai.
Mais j'avais à manger, j'avais un toit, j'avais où dormir, j'étais pas inquiet, ma santé psychique, était bonne.
Et tout. Si ce n'est une obsession pour le miel, quand même.
Ouais, non, mais le miel, c'est cher, le miel. Enfin, le vrai bon miel. Miel, c'est 10 balles de pot. Effectivement.
C'est vrai, je vois qu'on a deux ours.
Bref, Valérie, est-ce qu'il y a eu une
période. Pas du tout au niveau miel.
Une période dans votre vie où vous étiez inquiète du lendemain en disant qu'est-ce qui
m'arrive? Bah oui, moi, ça m'est arrivé. Mais jeune.
C'est pas une obligation, la preuve. Daniel n'a jamais vécu ça.
Moi, ça m'est arrivé parce que d'abord, je viens pas d'un milieu bourgeois, donc j'ai toujours travaillé, même pendant mes études, etc. Ensuite, j'ai rencontré quand même certaines turbulences dans ma vie et des épreuves qui font que, d'un coup, la question du travail n'est pas forcément prioritaire et puis on n'en a plus.
Mais c'est vrai que la définition de la précarité, Bastien l'a dit tout à l'heure, c'est tant qu'on a un toit, c'est pas non plus une catastrophe. Oui. Je crois que le fait de dire je ne sais pas où je dors.
Alors oui, j'ai toujours su où j'allais dormir.
Voilà, c'est ça.
On est d'accord.
Ouais.
Mais bon, après, on peut très vite dégringoler.
Ouais. Absolument. À Pied d'œuvre, le film est une réussite. C'est extrêmement émouvant, c'est prenant. On va en parler. Ce film qui sort ce mercredi. Mais d'abord, voici Hold de la Fan, évidemment, de Bastien Bouillon et de Valérie Donzelli. Ah.
Je suis fan de Valérie Donzelli. Y'a rien à faire depuis toujours, c'est notre chouchou d'ici. La Reine des Pommes, c'était votre premier film. C'est dingue, celui d'après, c'était pile votre deuxième film. Je suis fan de Bastien Bouillon. La Bouille, comme on vous appelle, à Besançon. Vous êtes de la famille de Joséphine Baker. C'est dingue, je l'aurais parié, vous avez le même courage. Et vous êtes ici, ensemble, vous, à pied d'œuvre. Le film parle d'un auteur qui avale des couleuvres. Et pour vivre sa passion, il fait des petits boulots. L'eau. Comme si une star du rock devait faire des chroniques radio.
Elle est où, la star du rock?
Mais si, c'est moi. Je suis fan du film, ok, mais faut que je parle du studio. On enregistre l'émission ici, dans l'autre, il y a des travaux. Mais grâce à Valérie, la direction d'Inter, pour les travaux, a trouvé à qui les faire. La chef Sybille Veil voulait des merveilles, des locaux bien classe, des caves aux terrasses, refaire les gouttières et surtout les water. Bref, tout France Inter, mais pour pas trop cher. Puis une annonce passe en bas de chez Leila. Normal, elle lui fax, l'annonce dit ça. Bastien qui bouillonne, tout travaux chez toi. D'hiver en automne, moins cher tu trouves pas. Il met des parpaings sur ton balcon. Il peut monter du placo du béton. Nagui lui donne une procuration pour faire tous les travaux de la station. Dans le studio de la bande originale, doit installer le chauffage central. Il pense qu'à coup de tronc, c'est de gardénal. Il finira par trouver ça normal. suis fan de vous et du film à pied d'œuvre. Parfait pour ceux qui veulent prendre leur pied devant un chef-d'œuvre. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec Mekis à la bande originale.
Petite précision quand même, Olaf, on n'enregistre pas l'émission, on est en live. Ouais. Hein, donc c'est une précision importante.
Il est où et quand pied,
ouais. La star du rock. continue la tournée Groland. Il sera au théâtre de Crossac dimanche et le 18 février au 3 Baudets. C'est à Paris.
Film qui a reçu le prix du meilleur scénario à la Mostra de Venise, mais qui pourrait en avoir bien d'autres des prix, tant il est agréable, touchant à voir ce film. Il raconte l'histoire d'un auteur, mais ça pourrait s'appliquer à n'importe quel métier dont on aimerait vivre passionnément, ou en tout cas vivre sa passion à fond. Là, c'est l'histoire d'un auteur.
Un photographe qui veut être auteur.
Ouais.
Enfin, qui est auteur, d'ailleurs.
Oui, qui est écrivain. Ça raconte l'histoire d'un écrivain. Mais effectivement, moi, quand j'ai lu le livre, je me suis aussi identifiée à ce personnage. Mmh. Parce que ce qu'il raconte, bah, je peux le ressentir aussi à mon endroit qui est le cinéma.
Pourquoi, Bastien Bouillon, votre personnage, ne continue pas de faire des photos de temps en temps et laisse tout tomber pour passer à d'autres jobs ?
Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça joue, et c'est deux choses, ça joue et avec l'arrivée du numérique, un peu, alors qu'il était à l'argentique, et aussi parce qu'il est arrivé à un endroit où on lui dicte ce qu'il doit faire. Sa photo est devenue un produit. Mmh. On lui dit qui photographier, on lui dit comment, on lui dit comment la personne sera habillée, quoi. Donc en fait, c'est de la commande et je pense qu'il se retrouve plus là-dedans, quoi. Voilà.
Le point commun entre d'ailleurs les deux métiers, c'est cette liberté artistique de s'exprimer, soit par la photo, soit par la plume.
Exactement. Et bon, pour le coup, l'écriture est vraiment plus solitaire, et du fait qu'il s'affranchisse de gagner sa vie avec ça, devient complètement libre.
Mmh. On retrouve... Il est sans concession, hein, vraiment.
Exactement.
C'est ça aussi intéressant dans le portrait de cet homme-là, c'est que c'est pas juste un choix à demi-pensé au frein à main, c'est vraiment total, quoi. Comme
c'est radical.
Ouais, c'est radical, c'est intéressant, les personnages comme ça.
Il se retrouve en tout cas dans une situation où on se rend pas compte d'ailleurs de ce que vivent les auteurs. On reçoit des auteurs ici, mais généralement
ils ont vendu
déjà beaucoup d'exemplaires, ou en tout cas ils ont une notoriété. Ils ont vu pignon sur rue, comme on dit, que ce soit dans la bande dessinée ou dans les romans. Mais démarrer, avoir des avances, devoir finalement quelque chose, le rapport avec Virgile Doyen qui joue la directrice d'édition, extrêmement violente. Hein. On peut pas dire qu'elle soit sympathique, cette directrice d'édition.
Elle est pragmatique.
Je suis pas d'accord avec vous. Elle fait aussi son travail. Moi, ça m'intéressait de faire
son boulot de dire j'ai lu.
Mais son boulot, c'est aussi dire le texte.
Tu l'as pas fait.
Ben non, son boulot, c'est aussi dire je ne crois pas dans ce texte. Ouais. C'est très compliqué, c'est-à-dire que quand on est confronté à des producteurs, à des éditeurs, ce sont
des
gens.
Rendre, oui.
Non, c'est pas une histoire de compte à rendre.
Ça pourrait être un peu.
Non, elle n'a pas des comptes à rendre, elle fait son travail, donc elle a payé quelqu'un elle a donné une avance pour écrire, elle trouve que le texte n'est pas assez fort, et donc forcément, elle est aussi à son endroit fragilisée par sa position, parce que si elle amène un texte qui est rejeté, c'est
peut-être... Ok, mais son boulot n'est pas de conseiller, justement, en disant c'est bien, t'es sur une bonne piste, mais va plus loin, enfin je sais pas, un truc un peu plus
si
généreux, quoi.
Je
sais pas, je les connais pas, donc je sais pas comment ça fonctionne.
C'est-à-dire que je pense que c'est compliqué de dire à quelqu'un, il faut retravailler. Il n'y a pas 36 façons de le dire, c'est forcément désagréable. Okay. Donc, elle est comme ça, mais parce qu'elle ne peut pas être trop dans l'affect, parce que je pense que quand on est trop dans l'affect, c'est compliqué après d'être dur.
Et puis, elle lui rend service.
Faire des critiques. Elle lui rend service.
Parce que si elle publie ce texte qui ne marche pas, c'est la dernière fois qu'elle le publie, et en plus, il est à la rue, il n'a pas d'éditeur.
Parce qu'il a le caractère pour tenir ça. Je pense que plus d'un. Si tu veux taper dans le micro, Camille, n'hésite surtout pas.
C'est ce nouveau studio.
J'ai besoin d'exister.
Je me familiarise.
Je suis là, check, one, two.
Non mais c'est la réalité pour beaucoup d'auteurs en fait.
Je ne m'en rends pas compte, je ne sais pas, mais je découvre ça dans le film en disant d'ailleurs globalement les premiers ouvrages ont été lus, ont été bien accueillis, bien appréciés par la critique, mais ça ne vend pas. Il n'y a pas la rentabilité commerciale.
Non, bah oui, c'est ça.
Il en est à son troisième livre.
quatrième, je crois, c'est son.
Oui, il en a. Il va écrire le quatrième, c'est ça.
Ouais, ouais, c'est celui qu'il est en train de.
Et elle lui dit, bah là, j'attends de toi un texte.
Ton grand roman.
Elle essaye ouais. de elle l'accompagner dit ça, ton aussi. Grand roman.
Et sa propre famille fait naître un doute aussi. Le rapport avec son père, joué par André Marcon, qui est juste. Dingue, ouais. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, ouais. mais pareil, il dit, mais c'est pas un métier, quoi, auteur.
Ben oui, puisque ça lui rapporte pas d'argent. En fait, ce que je trouve fou, c'est qu'aujourd'hui, on ne valorise que ce qu'il rapporte quelque chose financièrement. Mmh. On considère qu'un écrivain est écrivain quand il gagne bien sa vie avec. Mmh. Mais moi, je connais...
Ou en tout cas, ce qui apporte une stabilité. Si c'est pas forcément une rentabilité, mais au moins une garantie, quoi, un emploi qui est protégé.
Oui, mais c'est le propre des artistes, c'est qu'ils ne sont pas protégés. Ce sont des emplois qui...
Risqués.
Oui, ce sont des voies qui sont risquées, mm-hmm. qui ne sont pas sécurisantes financièrement.
Mm. Ah oui, et puis le nombre d'artistes ou le nombre d'auteurs qui ont vécu dans la pauvreté toute leur vie et qui n'ont connu le succès qu'après, ouais, qu'après leur mort, ça, malheureusement, la liste est trop longue. Ouais. La réussite de ce film repose sur quoi, à votre avis, Bastien, au-delà de votre talent et de la réalisation de Valérie, indiscutable pour les deux, ça repose sur l'histoire que ça raconte, sur la fragilité de la nature humaine, justement.
Bah, en fait, moi j'ai l'impression que ça parle de le roman de Franck, il parle de quelqu'un qui se rapproche de sa vérité intime, voilà, et sans concession, comme vous l'avez dit.
Donc la sincérité.
Et, voilà, et donc j'ai l'impression que dans l'adaptation, déjà dans le scénario, existait cette chose, cette manière de prendre, alors je sais pas, j'aime pas le mot sujet, mais de venir par en dessous, de pas vouloir écraser par sa réalisation, comme moi j'ai pas voulu écraser le sujet en étant performatique ou quoi. Donc pareil, être à l'endroit sincère de ce que le film raconte et a envie d'offrir et de donner. Et je pense que Valérie a fait encore une autre étape, évidemment sur le plateau avec sa mise en scène, et une autre étape encore au montage. On écrit un film sur plusieurs étapes, et je sais qu'il y avait des phrases que je, par exemple, le personnage que j'interprète disait, qui ont été coupées au montage, où Valérie trouvait qu'il voulait trop expliquer, enfin bon, voilà.
Ou se justifier, en fait, peut-être.
Je pense que Valérie a trouvé une espèce d'adéquation. Et que le film est à l'image de cette espèce de, je sais pas si on peut appeler ça un combat, mais en fait de cette manière d'être au monde.
En tout cas, d'être touchante. Mais c'est la première fois que j'entends un acteur dire, elle a bien fait de couper certaines répliques.
Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est.
Bah, c'est ce qu'il dit.
Voilà.
Non, mais c'est pas couper. C'est les mettre à d'autres endroits. C'est-à-dire qu'en fait. Moi,
un puzzle. Vous avez remonté les répliques de Bastien parce qu'elles n'étaient pas au bon endroit.
Non,
comment
c'est
vous
pas
le
ça.
Prenez, Bastien?
Non, c'est pas
mais
ça.
Valérie, je pense qu'elle a raison.
Je veux dire quelque chose d'important par rapport au film et au travail qu'on a fait autour du film. En fait, moi, le roman de Franck, évidemment, qui m'a touchée sur le personnage et son trajet et sa trajectoire, etc. Mais ce qui m'a aussi particulièrement intéressée, c'est sa description du monde d'aujourd'hui.
Ouais.
Et cette ubérisation du travail. Et cette déshumanisation du monde. Et
en Jobber. Fait. Le métier
voilà,
de jobber.
Nous, on a inventé jobbing, jobber et tout ça. Et en fait, je crois que les gens, à la fois, se retrouvent effectivement dans cette quête de vérité du personnage, mais aussi dans le monde qu'il décrit qui n'a plus aucun sens.
On va expliquer
quand même.
On est
comme des poulets sans tête.
Ouais.
Et cette hyper-capitalisation du monde, cet ultra-libéralisme économique.
Ubérisation.
Je ne suis pas journaliste économique, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et ben en fait, ça massacre le monde, tout simplement, puisqu'on est tous en train d'être là, dans l'agonie.
On est tous notés, en plus, à chaque fois qu'on
alors,
fait quelque
ça,
chose.
Alors, ça, c'est encore une autre histoire, mais ce que je veux dire, c'est que comme...
Ça fait partie du jeu d'application.
Mais c'est un détail par rapport à l'hyper-capitalisme et le profit permanent qu'on veut pour tout, en fait. Et en fait, on veut que tout soit rentable et on massacre beaucoup de choses pour ça.
C'est, pardon, ce qui est le point de départ de Virginie Ledoyen, quand elle dit aussi tu ne gagnes pas d'argent, tu n'es pas rentable.
Oui, mais à la fin, elle change d'avis. Bon, on ne va pas spoiler le film, mais en tout cas, ce que veut dire Bastien, c'est que la voix narrateur que dit Bastien dans le film, c'est le texte du livre. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, tout était dit de façon un peu proportionnelle pendant tout le film. Tout était raconté. Et moi, j'ai voulu que le livre qu'il écrit soit incarné. Donc, il y a des choses qu'il disait au début que finalement, j'ai rajoutées
vers la fin.
Je voudrais juste expliquer, pardon, pour ceux
c'est
qui
c'est pour ça que tu disais que non, j'avais coupé des choses.
Non, pas du tout, c'est pas pour ça, mais on va pas embêter les auditeurs.
Non, mais
on en parlera.
Ah, ouais, pas, ça. C'est intéressant, et puis surtout, on va remettre la phrase que vous avez dite plus tard dans l'émission.
mais le tout petit côté revendicateur qu'il avait auprès de son ami d'enfance, ou d'ailleurs auprès de son père et de sa sœur, qui les a complètement coupés pour justement qu'en fait, ce soit quelqu'un qui soit proche de la vérité, mais qui dise pas « il faut être proche de sa vérité » ou « vivez comme moi », c'est comme ça que le c'est monde ça. Doit être. C'est non, ça. Non, c'est juste quelqu'un qui, voilà,
qui vit sa vie sans la dicter aux autres.
Ouais. Et c'est ça qui est assez violent. Son ami d'enfance, tout d'un coup, il est obligé de parler et dire « ah ben moi je suis comme ci, je suis comme ça » parce que, en fait, Paul Marquet est devenu un miroir. Mmh. Et le film, c'est là où je dis que le film est en adéquation avec le roman et que Valérie a su faire ça. Le film nous met tous en face de nous-mêmes, nous fait poser des questions sur notre place dans cette société, sur nos conditions sociales, sur notre manière de voir le monde, de vivre, d'accepter les choses ou pas. Voilà.
Ouais. Et l'application, pour être précis, mais je crois qu'elles existent, ces applications dont...
Bien sûr qu'elles existent.
Mais elles sont encore plus pernicieuses que c'est décrit.
Tout le monde les utilise quand vous faites, par exemple... Par exemple, là, il y avait un article...
Sans minimum horaire.
Ce qui m'a choqué, c'est qu'elle
est particulièrement dégradante. C'est qu'on peut... Donc, en gros, chaque personne qui veut travailler peut faire descendre le prix, justement, pour être choisie. Mais il n'y a même pas un minimum, il n'y a pas un seuil. Voilà pourquoi ils se retrouvent à faire du sécateur pendant 4 heures à 18 euros. Quoi.
Voilà, on va expliquer la mécanique. C'est-à-dire que quelqu'un...
pose une annonce.
Les ouvriers sont inscrits en disant, voilà, homme à tout faire, je suis prêt, factotum, je ne sais plus comment...
C'est du speed dating du boulot. Quoi.
Exactement. Ouais. Je suis prêt à faire tous les boulots que vous voulez. J'ai besoin de quelqu'un pour déménager ou pour couper de l'herbe ou ainsi de suite. Et là, les futurs employés proposent à 20 euros pour le faire. Et puis, on sent qu'il n'a pas l'offre, donc il baisse à 18 et puis à 15 et ainsi de suite.
C'est la désenchère. Quoi.
C'est ça, exactement. C'est la dépréciation en fait, de la valeur du travail et du résultat.
Et de l'estime de soi.
De l'estime de soi qui va en même temps. Et il explique en plus, pour avoir le boulot, il y a tellement de demandes que je suis obligé de baisser au plus ras les tarifs.
Et c'est l'application...
Ça existe.
Franck, quand il a écrit son livre, c'était après le Covid. D'accord. Et l'application sur laquelle il a travaillé fonctionnait comme ça. Aujourd'hui, cette application, elle n'existe plus.
C'est illégal.
Parce que c'était illégal, mais aujourd'hui, quand vous allez sur des applications, par exemple, entre voisins ou je ne sais quoi, les gens proposent des tarifs eux-mêmes, mais ils baissent leurs tarifs parce qu'il y en a un qui va proposer 18 euros, quelqu'un d'autre va proposer 17, donc ils sont de toute façon en concurrence les uns avec les autres. Et la personne va choisir celui qui propose 17 euros plutôt que celui qui propose 18.
Bien sûr.
Et par exemple, toutes les plateformes de VTC, de chauffeurs qui mettent leur voiture comme ça à disposition pour faire le taxi. J'ai entendu la dernière fois, il y avait une émission, les chauffeurs, ils travaillent plus de 16 heures par jour, ils ont des accidents. Il n'y a rien qui est vérifié sur l'état de leur permis, leur état à eux, etc. Et en fait...
Sur la sécurité de certains passagers vis-à-vis d'eux aussi.
Voilà, on connaît les histoires qu'il y a eu, et donc y en a même qui font des courses qui leur apportent 9 euros parce que les plateformes prennent je sais pas combien de pourcentage sur ce qu'ils gagnent. Donc en fait, c'est juste complètement...
C'est l'histoire de Suleiman, par exemple.
Ouais, c'est ça. Ouais. Leïla a résumé sur la valeur, aussi de que l'on se donne, l'estime de soi, puis une forme d'amour propre, mais toujours mal vécu quand on parle d'amour propre,
mais là, c'est
au sens dignité du terme.
Oui, parce que lui,
il est carrément maltraité par des gens qui lui louent, qui l'exploitent en lui louant parce qu'ils ont des papiers, un compte à lui. Donc c'est encore autre chose.
Mais ce qui est intéressant dans le film, c'est que cet outil de jobbing, là, de jobber, c'est aussi l'outil de sa liberté. Parce que c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que c'est une critique, en effet, de la société contemporaine, mais c'est aussi là où on peut y trouver un avantage. C'est, il écrit le matin et l'après-midi, il est jobber.
Sauf qu'il n'y arrive pas, parce que ce qu'il dit dans le film, et c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est l'illusion de la liberté, parce qu'en fait, il faut être disponible tout le temps. Et au bout d'un moment, il est complètement perdu. Il n'a plus d'horaire, il n'a plus rien. Parce qu'en fait, il faut être disponible n'importe quand pour avoir du travail.
Sauf que sans spoiler, sa réussite sur sera peut-être le moment où il pourra dire à ce moment-là j'écris, et à d'autres moments je peux faire ces jobs en question, puisque la phrase est dite d'ailleurs, on voit dans la bande-annonce, donc là on spoil rien, quand il s'inscrit, on imagine une sorte de Pôle emploi ou de France emploi,
France travail.
Vous voulez fait vous voulez travailler mais avoir
du temps libre, vous cherchez un travail qui vous laisse du temps.
C'est ça. À pied d'œuvre, c'est au cinéma ce mercredi, on en parle jusqu'à midi et demi, mais d'abord voici Lisa Delmoitier. Là, vous n'auriez pas adapté ce roman comme ça?
Non, non, différents studios, même concept. C'est quand même terrible, ce dilemme qui s'impose à tous dans la vie. Hein. Faut-il faire ce qu'on aime sans concession, même si c'est galère, ou pire, même si on n'est pas très doué, ou se résoudre à travailler dans le secteur dans lequel on excelle? Personnellement, j'ai choisi... Je fais ce que j'aime. Bon, il y a pas mal d'auditeurs qui attendent que ça passe, mais moi je m'épanouis ici. Voilà. Écoutez, j'ai pas envie de retourner travailler dans ce secteur qui me réussissait pourtant si bien. J'étais mannequin.
Pourquoi on rit ?
Publicité. Pour tout ce qui est prévention santé. Voilà. J'ai un talent naturel pour tirer la gueule. Je fais pas exprès, hein, mais quand je vous souris, on dirait toujours que je vais vous annoncer que vous avez une grosseur dans votre mammographie. C'est, voilà, c'est comme ça. Mais dans Un pied d'œuvre, votre film, Valérie Donzelli, le héros, votre personnage, Bastien Bouillon, je resitue pour les gens qui n'écouteraient que ma chronique. Coucou maman. Ben, le héros, il fait le choix de sa passion et il abandonne son succès de photographe pour se consacrer à l'écriture. Résultat, il galère. Et il est obligé d'enchaîner des petits boulots mal payés trouvés sur ces fameux sites de job freelance. Moi aussi, à un moment, je m'étais inscrite sur une de ces plateformes quand j'étais journaliste indépendante de tout emploi. J'étais indépendante. J'étais tellement indépendante. Aucun patron, aucun ordre, aucun argent. La liberté était notée sur ces sites, on le disait. Votre personnage est donc doublement évalué et par les clients et par son entourage, parce que dans notre société, la valeur de ton travail est proportionnelle à l'argent qu'il te rapporte. Sauf chroniqueur France Inter. C'est marrant, mes amis sont hyper impressionnés par mon travail, beaucoup moins par mon salaire. En réalité, je leur dis pas mon salaire, donc ils pensent toujours que je suis une star, mais une star radine. Enfin, une star, quoi. Mais il n'y a pas que l'argent qui devrait déterminer la valeur de ton travail, ton épanouissement, ça compte, ta contribution à la société. Moi, si je viens sur France Inter, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour les millions d'auditeurs, c'est pour la cantine.
Évidemment.
Franchement, c'est compliqué d'enchaîner les petits boulots comme ça, et en même temps, ça nourrit ton travail d'artiste. De toute façon, moi, j'ai une théorie. Je crois qu'artiste, ça devrait pas être un métier à temps plein. Sinon, après des années, ben, t'as plus rien à raconter. J'ai reprenais les Rolling Stones. 1973, NG. 2023, Angry. Waouh. Une lettre de changer en 50 ans. On en a vécu des choses. Artiste, ça devrait être un service civique, comme juré d'assises. Tu viens raconter ce que t'as vécu, puis tu repars vivre un peu, quoi. On en voit défiler ici des acteurs, réalisateurs, auteurs. La première fois, ils sont passionnants. La neuvième fois, tu leur demandes le drame qui a marqué leur vie. Ils te répondent, une fois à Cannes, il n'y avait plus de champagne. Waouh. Et vous avez fait quoi, du coup? Ben, on a buté le larbin, embauché sur le site larbinfreelance.com, dont c'était le job de commander du Dom Pérignon, puis on a bu son sang. Bien sûr, on a d'abord demandé à un autre larbin de péter dedans pour qu'il y ait des bulles. On l'avait embauché sur le site larbin qui pète dans le sang freelance.com. Ah ouais. Je dis ça, ça vaut aussi pour nous, les humoristes. Hein. Le premier spectacle d'un humoriste, c'est toujours si riche, c'est nourri de 30 ans de galère. Mais le troisième spectacle, c'est l'enfer. Le mec a rien vécu d'autre que la tournée et la promo dans le quotidien. C'est pas pour rien que tous les humoristes ont une blague sur le train dans leur spectacle. Hein. C'est là qu'ils passent leur vie en tournée. Les enfants dans le wagon, c'est chiant, j'ai pas raison. Waouh, quel angle. Faites l'exercice, franchement, la prochaine fois que vous regardez un spectacle, si c'est un humoriste américain, ce sera une blague sur l'avion, est-ce que c'est comme ça qu'il se déplace en tournée? Je suppose que tous les humoristes de Laponie ont une blague sur la luge. Et vous savez comment on ralentit à la fin de la descente? On tire sur le frein et je parle pas dessus de ma bite.
Wow.
C'est mon imitation de tous les humoristes blancs. Et ce serait insultant si je me mettais pas dans le lot. Sachant que c'est moi qui écris la blague.
Oui, bien sûr.
Je suis d'accord qu'il faut pouvoir vivre de son art, mais il faut un plafond sur le montant qu'on peut gagner, sinon tu perds en légitimité. J'avoue que j'ai parfois du mal à voir un acteur ici au premier rang du défilé Jacquemus le lundi venir nous expliquer le mardi comment il est rentré dans le rôle d'un ouvrier au chômage. Laisse-moi deviner, t'as enlevé ton pull Jacquemus? Bon. En même temps, ça veut dire qu'il est bon acteur.
Bah oui.
Plus la distance entre le personnage et toi est grande, plus t'as un talent d'interprétation. C'est facile pour un pauvre de jouer un pauvre. Mais le César de meilleur acteur, il ira à Depardieu dans le rôle d'une anorexique qui respecte les femmes. Bon, je vous laisse. Et si vous ne croyez pas ma théorie sur laquelle les artistes devraient aller vivre un petit peu la vraie vie et le rester dans leur bulle et finir par se répéter, sachez que j'en avais déjà parlé dans une chronique il y a 3 ans.
Quelle objectivité ! Lisa Delmoitier, ça c'est la musique du film avec un gimmick musical qui s'installe, qui est un véritable personnage.
Ah, j'ai pas reconnu tout de suite, c'est marrant, parce que vous l'avez prise. Oui, tout à fait.
Là, c'est mieux. À pied d'œuvre, l'un des paradoxes, c'est que un auteur, on a l'image en tout cas de l'auteur qui s'enferme un peu dans sa bulle pour écrire. Lui, c'est l'inverse, il va s'ouvrir au monde presque pour trouver l'inspiration.
J'étais encore dans le sketch.
Mais non, mais en fait, ça rejoint exactement. Exactement ce que vous venez de dire pour pouvoir redonner. Donc, en l'occurrence, là, on parle d'un écrivain. Il faut vivre, oui, et c'est ça qui, c'est là-dessus qu'il va baser son roman. Mais pareil, on spoil pas le film.
Il va le découvrir. C'est-à-dire que, en fait, dans un premier temps, il se dit pas, je vais faire une enquête.
C'est vrai. Vous avez tout à fait raison. En l'occurrence, oui.
Mais il ne fait pas d'enquête, d'ailleurs. C'est pas comme Florence Soumnas qui...
Mais il a un poste d'observation particulier dans la société. Il est aussi...
Mais ça, c'est parce qu'il est écrivain.
Parce qu'il va toucher parce qu'il va vivre et parce qu'il va voir.
Il y avait cette phrase que tu as retirée, Valérie. Moi, c'est une des phrases qui m'a évidemment touchée dans le scénario et je crois qu'elle n'existe plus. Peut-être, effectivement, que je ne suis pas un invisible, mais moi, au moins, maintenant, je les vois.
Ah oui, mais je trouve que, effectivement...
C'était trop didactique. Ça exprimait trop de choses.
Elle sera sur le DVD.
Dans le livre audio, je sais pas.
On a envie de... On lit un scénario et évidemment que ça a dépassé cette phrase. Mais cette phrase, je l'ai trouvée à un endroit intéressante.
Mais on le voit dans son regard sur le chantier, blanc sur le chantier.
Mais surtout, le film le raconte, on n'a pas besoin de le dire à la fin. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant parce que... Non, mais je sais que c'est pas un reproche, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'écriture et le cinéma, c'est pas la même chose, parce qu'au cinéma, il y a la question de l'incarnation. Donc, quand les acteurs réussissent à incarner ou que le film réussit à incarner quelque chose, on n'a pas besoin forcément des mots pour le rajouter. Sinon, c'est peut-être un peu redondant.
Alors, comment jouer ce personnage? Comment l'incarner? Se mettre dans cette position de, à la fois d'urgence et en même temps de talent d'écriture, c'est-à-dire de prendre des notes sur un calepin, d'avoir son ordinateur, d'essayer de trouver les conditions idéale pour écrire en fonction de l'heure, du jour, de la pièce même où on se trouve, dans une espèce de cour anglaise comme ça, où il ne voit même plus les visages.
Il ne voit que les pieds à la Truffaut.
C'est très Truffaut ce plan.
Eh bien écoutez, les comédiens ne sont pas feignants, mais plus le scénario est bien écrit, plus c'est facile pour nous. Et là, évidemment... Je salue Franck Courtès pour son roman, mais je salue également Gilles Marchand et Valérie. Voilà, donc, le scénario était déjà très, très... Donc c'est pour ça que je disais, on passe par en dessous.
Alors parce qu'on apporte en tant qu'acteur dans ces cas-là?
On apporte un corps en premier, un corps, donc un regard.
Comment on se tient physiquement, les épaules refermées
Il fallait essayer d'être un peu à la fois... dans la corporalité et à la fois dans un peu gauche parce que c'est il apprend en même temps qu'il fait en fait donc on apporte surtout un corps avec tout ce que ça a, des yeux, une bouche,
un regard, la tête baissée aussi il est comme s'il était sous le poids de quelque chose.
En fait,
vous voyez ce que je veux dire ou pas dans sa démarche?
Bien sûr. Mais parce que je pense que le travail d'écrivain ou le travail artistique, c'est à la fois une souffrance et un grand plaisir. Et donc, je voulais que Bastien, on le sente qu'il souffre à la fois physiquement parce que il travaille toute la journée sur des choses plus manuelles et en
il
même
ne
temps.
Il ne dit jamais non, en tout cas, dans le boulot qu'on lui propose
non,
de faire.
Parce qu'il a besoin d'argent. Et en même temps qu'il souffre psychiquement de ne pas réussir à écrire. Donc ça, parfois, il a ce truc de la tête baissée comme ça. Mais après, ce que Bastien a, qui est absolument magnifique et sublime, c'est qu'il a une intériorité extrêmement puissante. Et quand on le filme, on la sent, cette intériorité. C'est un acteur, il fait partie de ces acteurs qui disparaissent derrière leur personnage. On ne voit plus l'acteur, on ne voit que Paul Marquet.
Et heureusement, quand nous, on est dans la salle, on le voit aussi.
Bah oui, et ouais, c'est ouais, ça qui est magnifique, c'est que moi, quand j'ai... Quand on a fait le film avec Bastien, je savais que Bastien, il avait tourné dans pas mal de films qui sont sortis, mais qui n'étaient pas sortis au moment du tournage. Et je me suis rendu compte de la puissance de jeu de Bastien, évidemment au quotidien sur mon tournage, mais d'autant plus quand j'ai vu ses performances après dans Partir un jour.
Qu'on reconnaît pas de film en film.
Mais non, ouais. Et dans Bojarski, ouais. dans les films qu'il a fait. Ouais. Et c'est vrai que c'est dingue, quoi. Moi, quand j'ai vu Ryan Gosling en patin à glace chanter Baby, je sais plus ce que c'est la chanson, mais je trouvais ça génial parce que je me disais, mais c'est fou parce que ce qu'il fait dans mon film, c'est encore différent et les gens vont trouver ça génial, quoi. Enfin, c'est hyper joyeux.
Carrément. La musique, il y a ces quelques notes, 3-4 notes qui reviennent régulièrement dans des thèmes différents, en tout cas. Et puis il y a la présence aussi de... On parlait d'ubérisation, évidemment la vanne est toute faite. Chanson bouleversante
ce
aussi.
Dans ce duo, c'est que tu fais la voix du haut. C'est toi qui sais, c'est toi qui dis. C'est toi qui
et il était temps, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, on redécouvre toutes les chansons de Reggiani, tous les textes et son interprétation. Oui. Et puis puisqu'on est avec un chanteur touchant et intelligent, vous vous rendez compte que ces trois titres, vous avez pris Vanessa Paradis, Joe Le Taxi, Serge Reggiani et Alain Souchon. Trois artistes, chanteurs et acteurs, comme par hasard.
Ah oui, ben ça, je me suis pas rendu compte de ça. Mais c'est surtout des chansons que j'aime et qui ont été là.
Dont le texte colle à la situation en plus, ouais.
Oui, en tout cas, qui apporte quelque chose d'un point de vue de l'histoire, en fait.
Tout à l'heure, Franck Courtès sera avec nous pour parler d'À pied d'œuvre. Donc, ce film sort, je le rappelle, mercredi avec Bastien Bouillon à l'affiche, dirigé par Valérie Donzelli, qui est notre invitée. Il y a également au casting Virginie Ledoyen, André Marcon et vous-même, Valérie Donzelli. On l'a pas suffisamment précisé.
Et Claude Perron aussi.
Oui, Michel Gondry aussi.
Ah, Michel
il y a
Gondry.
Les chaussettes dépareillées de
oui,
Michel Gondry.
Tout à fait, c'est vrai.
Adrien Barazon.
Oui, Adrien Barazon, voilà, Pauline Serriès. Mais c'est ça, bon, avoir oublié Marion ouais. Décrivain, tout ça. Ouais, ouais. Toute
et Eric Reynard, on a pris un auteur
aussi. Eric Reynard, Philippe Catherine.
Ouais. Et oui, en beau salon.
Et puis Christopher Thompson.
Christopher Thompson en auteur.
En belle terrasse. Ouais. Ouais, il a un balcon d'angle. Trop la classe. Voici Camille Lavard pour la classe. Bravo.
Hello tout le monde.
Hello.
Bon, les amis, je suis là ce matin, mais honnêtement, c'est bien parce que c'est vous. Hein. Ouais, parce que je me suis aperçue que j'avais de moins en moins envie de sortir de chez moi. Non pas que chez moi ce soit très grand ou très beau. Non, j'ai ce qu'on appelle à Paris une petite surface fonctionnelle. Mais c'est super les espaces, confinés quoi. Ça force à être astucieux. Par exemple, vous saviez qu'un grille-pain faisait aussi un excellent égouttoir, ou qu'une prise murale pouvait permettre de stocker jusqu'à 2 couverts et l'étringle à rideaux. On croirait pas, mais figurez-vous qu'on peut y suspendre bien des choses, des parapluies, des tote bags, un corps. Mais qu'importe, c'est mon chez moi et je m'y sens bien. Impossible de me déloger. Je vous jure, le seul truc qui pourrait me faire sortir de chez moi aujourd'hui, c'est le GIGN, une promo chez Naturalia ou les nouvelles chaussures de Nagui. Oui, je voulais les voir en vrai.
Ah bon?
Oui, parce qu'apparemment, celle-ci, si tu les frottes, il paraît qu'il y a un génie qui sort pour t'exaucer un vœu. Ouais. Par exemple, Emma, elle a demandé à pouvoir sécher l'émission 4 jours sur 5. C'est pas trop des barres, ça la team. Après, faut pas que les souhaits... Merci beaucoup. Conservatoire, t'inquiète. Après, faut pas que les souhaits soient trop compliqués non plus. Hein. Non, parce que Bruno, pauvre choupi, il a demandé la paix en Ukraine. Alors, le génie, forcément, il lui a dit de choisir autre chose. Alors, Bruno a demandé s'il pouvait le faire muet. Donc le génie a dit alors attends, est-ce qu'un cessez-le-feu ça irait? Bref, non, je suis devenue une vraie casanière. Vraiment, ça en devient inquiétant, je vous jure. Si chez moi j'avais une caméra, un micro, une bonnette qui sent encore la laine de Pierre Desproges, un mur couleur LFI et Old Laf, vous me reverriez plus jamais, quoi, c'est sûr. Et surtout, je n'aurais plus de vie sociale et ça, mais quel soulagement! Parce que moi, j'ai pas le temps d'aller boire des verres, moi. Moi, je dois aller faire mousser mon lait d'amande et hydrater mes orteils avec un nouveau masque, en fait, les amis. Ils sont marrants, les gens, ils réalisent pas, quoi. Ils sont là, ils te proposent de sortir sortir, mais moi j'en peux plus de ces alertes WhatsApp, Old Olaf qui propose un karaoké, oui. Bruno qui propose un atelier d'éveil, Leïla qui propose de boire des coups à sa soirée pastis théâtre anglais Ricard 3. Mais stop ! Stop ! Mais ça va pas, non ? Alors je sais, d'aucuns diront la vieillesse, moi. Je dirais plus que je me suis enfin trouvée, vous voyez. Ouais, je suis là à me déguiser toutes les semaines, à prendre des accents, tout ça, parce que je me suis longtemps cherchée. Mais ça y est, quoi, c'est bon, je me suis trouvée. Chez moi, c'est vraiment là que je suis. Bon, après, j'avoue, il y a peut-être un signe de vieillesse, peut-être. Parce qu'effectivement, c'est un fait. Plus on est vieux, moins on bouge. Regardez Daniel. Enfin, pardon, mais en termes de mobilité, on est quelque part entre l'automate et le platane, quoi. On est quand même sur une personne qui a gagné une partie de barbichette contre un ficus. C'est simple, à chaque fois que France Inter poste sa chronique sur YouTube, le premier commentaire, c'est « son ok, mais vidéo ne charge pas ». Ah, mon Daniel. Bref, je me danielise. Je veux plus sortir. Franchement, quel intérêt. Les dîners, les expos, les plages, mon neveu. C'est bon, j'ai déjà tout vu sur Instagram. Et c'est beaucoup plus beau qu'en vrai. Ah oui, oui, même mon neveu. Oui, oui. Ah non, non, je vous assure, le gros émoji sur sa tête, c'est pas uniquement pour protéger son identité. Non, non, non. Mais après, je dis ça, mais j'avoue que parfois, la moi d'avant me manque. La faux-folle, la déglingo, celle qui hurlait « oui » quand on demandait dispo. Mais avec les années, j'ai compris que tout ça, c'était du vent, quoi. C'était juste un besoin de combler le vide. Alors qu'après tout, qu'est-ce qu'une bonne soirée dans un bar à côté d'une magnifique ribambelle d'orteils bien hydratée.
Yeah. Merci Camilla.
Sur Netflix, dans French Lover notamment.
À pied d'œuvre, ce sera au cinéma ce mercredi avec Bastien Bouillon, Valérie Donzelli. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. Dans quelques instants, Franck Courtès, l'auteur, l'écrivain, celui qui a publié ce livre il y a à peine 2 ans. C'est-à-dire que c'est relativement
frais.
C'était
en 2020.
Ouais. Sera avec nous en quelques instants. Mais d'abord, vous, Valérie, vous écoutiez comme musique dans les années 90. C'est-à-dire que vous suivez ce qui se passe dans Fabien Beckham encore aujourd'hui.
Ah bah oui, c'est intéressant d'ailleurs, ce qu'il dit de fils.
C'est-à-dire
terrible.
Sur la place de la mère, qui spoil.
En tout cas, qu'il a souffert de certaines choses. Il dit
de la marque Beckham carrément.
Ouais, ouais. Business, c'est, ouais. C'est pas ça. Dans ces années-là, Valérie, on vous retrouve à Paris, installée à Paris. L'histoire dit que c'était pour suivre un garçon. Ouais. On disait tout à l'heure qu'il fallait trouver sa place dans la société, mais trouver la place aussi qu'on doit occuper dans sa famille. Vous dites que quand votre sœur a arrêté de vouloir être comédienne, il y avait un boulevard pour vous.
Oui, enfin, en tout cas, je me suis autorisée peut-être à faire ça aussi.
Ah bon, vous l'interdisiez ?
Ah oui, je voulais pas prendre son
sa
truc,
place.
Quoi.
Mmh. Ouais. La place dans la famille, justement, c'est ce qu'on ressent aussi dans à pied d'œuvre avec le regard du père sur le fils dans la famille et de la sœur, exact. Quant à vous, Bastien Bouillon, vous écoutiez. J'entends ça, j'ai envie de me laver les dents.
Oui, trop tard.
Elle vous rappelle quoi cette musique, Bastien ?
Elle me rappelle mon beau-père. C'est lui qui écoutait The Pogues, parce que vous imaginez que j'étais un jeune à cette époque-là. Et c'est lui qui écoutait ça. Ouais. Et puis Sean McGovern, quelle dentition, comme vous venez d'en parler, évidemment. Mais plus que ça.
Jeune, mais déjà sur un plateau d'Éric Rohmer. Dans ces années-là.
Oui, oui, mais je crois que. Je crois que. Les films de Rohmer étaient tournés de manière très familiale, donc en fait je jouais le fils de ma mère qui a eu la chance de travailler plusieurs fois avec lui. Dans notre appartement, elle m'amenait à l'école, dans mon école, enfin bon, c'était assez, voilà.
Naturel.
Ouais.
Presque.
Ouais.
En 2011, Valérie Donzelli, vous écoutiez Peter Van Boll, donc malheureusement on n'a plus beaucoup de nouvelles, c'est dommage parce que j'adore.
Moi j'en ai, je l'adore, Peter Van
Boll. Ouais, génial.
C'est vraiment un grand artiste quoi.
Story of the Impossible, c'était dans la BO.
Alors celle-ci non, c'en était une autre dans la BO et il a fait la musique de Main dans la main. Mon film avec Valérie Lemercier et Jérémy Alcaïm.
Et là, c'est la guerre est déclarée, c'est une déflagration sur grand écran, une histoire personnelle. Est-ce que ça c'est un peu galvaudé peut-être de dire ça, mais est-ce que ça guérit un peu, est-ce que ça apaise un peu que de porter sur grand écran une partie de sa vie?
Ce qui guérit, c'est surtout que c'est derrière nous. Et puis ensuite, oui, de pouvoir montrer aux hôpitaux quel était mon travail après avoir si bien été confronté aux leurs. Mm-hmm. Je ne les remercierai jamais assez. Il faut vraiment protéger l'hôpital, quoi.
Ouais.
c'est dramatique ce qui se passe. Enfin, ça me donne envie de pleurer, quoi. Quand je vois l'état de l'hôpital aujourd'hui, je trouve ça tellement violent, quoi. Je comprends pas, mais bon. Et ouais.
Voilà. Et Bastien Bouillon déjà présent dans ce film, puisque pote de Jérémy à ce moment-là.
Plutôt que français, de Metz plutôt que français.
Racontez-nous ce morceau.
Pardon ?
Racontez-nous ce morceau, ce choix, bah, en tout cas par rapport
en fait, avec la mère de mon premier enfant, on va à un concert d'un festival et j'assiste à un concert de Scorpion violente. Je suis fasciné et en l'occurrence, un des deux protagonistes de Scorpion de ce projet-là est Nafi, qui a aussi ce projet Noir Boy George, et je me mets à écouter Noir Boy George et... Et voilà, jusqu'aujourd'hui, je l'écoute très souvent, très régulièrement, et je lui ai proposé de faire la musique du long métrage que je m'apprête à réaliser. Voilà. Donc
très bien.
Et on vous retrouve dans La Guerre est déclarée. On a parlé de votre relation amicale avec Jérémy El Khaïm, qui fait que vous êtes sur ce projet, qui fait sans doute que vous êtes encore ici avec Valérie, ce lien-là créé à ce moment-là. Et vous parlez de Cannes déjà. Cannes, avec la montée des marches pour La Guerre est déclarée. Vous avez ce souvenir ?
Avant, on n'a pas monté les marches pour La Guerre est déclarée.
On n'a pas monté.
On était à la semaine de la critique,
la semaine de l'ouverture.
On n'a pas fait une montée des marches. Non, mais. Jérémy l'a dû faire pour Police.
Oui,
toi, non, mais on en a fait.
Non, mais
par contre, je me rappelle. Non, mais je me rappelle, c'était mon premier Cannes. Il m'avait emmené très gentiment. Il m'avait fait venir. Jérémy m'avait emmené chez la personne qui lui prêtait les habits et tout ça. Et c'était un enfer pour moi. J'ai craqué l'ourlet, mes souliers n'étaient pas, vous savez, grattés, donc je glissais, je me cassais la gueule. Pendant la projection, j'ai perdu un bouton de manchette, mais j'avais 24 ans, je me disais, putain, ça doit être 640 balles.
Le bouton
bah, pour le coup, ouais, non, mais je me suis dit, non, mais c'est un truc de grosse marque, putain, j'étais angoissé pendant tout le film.
Franck Cortès nous a rejoint. Franck, merci d'être présent à ce micro.
Bonjour à tous, merci.
Ravi de vous accueillir. L'adaptation, je disais que ça s'est passé très rapidement entre le moment où vous avez publié le livre en 23 et la sortie du film aujourd'hui.
Oui, mais
enfin mercredi.
Pour moi, de toute façon, c'est la première fois que je suis adapté, donc j'ai pas de point de repère. J'ai trouvé ça normal.
Quel sentiment vous avez ?
Oh, une émotion. Et puis, j'ai l'impression de changer un peu de vie aussi. Hein.
Philippe Barbeau nous avait dit à ce micro qu'un romancier qui est adapté au cinéma est forcément trahi. Avez-vous eu ce sentiment
non.
Et comprenez-vous cette
oui,
image ?
Je comprends, mais on n'a pas du tout travaillé comme ça avec Valérie. Il y avait eu d'abord Alain Goldman, le producteur, qui m'avait appelé pour acheter les droits et qui avait vraiment une sensibilité au fond du livre qui me plaisait. Et ensuite, celle de Valérie. Donc, on s'est rencontrés et assez vite, un coup de téléphone et un rendez-vous au café, j'ai tout de suite vu qu'on était non seulement sur la même longueur d'onde, mais qu'elle avait quelque chose de plus à dire par moment. Quoi.
C'est votre histoire, à pied d'œuvre.
Oui, absolument.
Et vous avez une image qui vous revient quand vous repensez à cette époque d'ubérisation, justement, de sortie de Covid et de prendre les boulots et de baisser ses prix le plus bas possible pour pouvoir avoir le job et manger ?
Oui, moi, c'est la première, c'est celle où je coupe l'herbe avec une cisaille.
Le sécateur,
comme le
ouais.
fait véritablement Bastien. Oui, non, ça, j'ai eu un moment de panique parce que je me suis dit, pas que j'y arriverai pas. Évidemment que j'y arriverai. Ça prendra 8 heures, mais j'y arriverai. Mais j'avais l'impression d'être un usurpateur, un escroc, quoi.
Alors que c'était vous qui vous faisiez escroquer, en plus.
Mais j'ai c'est toujours fou. Senti qu'il fallait que je sois à la hauteur de ce qu'on me demandait. Le bon petit soldat, quoi.
Qu'est-ce qui a changé dans votre regard de la nature humaine?
De la nature humaine.
Ouais, la nature humaine, parce que celle qui dit aussi je vais te donner 15 euros pour faire tout le jardin, parce que c'est pas 15 euros de l'heure ou de la touffe, hein, c'est 15 euros pour la totale.
Ben, j'ai découvert que des clients pouvaient aussi être pauvres, ouais. Et qu'eux-mêmes étaient dans une nécessité de faire les choses à des bas coûts.
Et que d'autres profitaient.
Mais tout le monde profite. Mais moi, j'avais l'impression aussi par moment quand c'était des boulots beaucoup plus faciles, Je me disais, mais c'est tellement simple, pourquoi elle ne l'a pas fait elle-même? Et je prenais 20 euros et j'avais l'impression de l'avoir un petit peu escroqué.
Et la précarité de l'écrivain, ce que l'on ressent dans cette attente de l'éditeur d'avoir l'objet.
Parce que c'est dur de faire ce choix et en plus derrière, de ne pas être publié, de ne pas parvenir à sortir un texte qui va finir par convaincre l'éditrice.
Oui, alors moi j'étais publié, j'avais la chance d'être publié et l'anomalie du livre que je raconte, c'est vraiment en étant publié, en passant à la grande librairie, des choses comme ça, on se retrouve quand même au RSA. Enfin, et encore, j'étais même pas au RSA au début parce que je savais pas que ça existait. Et puis, comme vous, qui recevez des écrivains plutôt arrivés, moi, j'étais photographe avant et je photographiais des écrivains. Et j'avais une image d'eux plutôt installée, pas forcément germano-pratine, mais plutôt bourgeoise, quoi.
Cosy, ouais, c'est ça.
Voilà, je me disais, ça va être la même chose que photographe, en fait. Mais en fait, pas du tout.
Si à pied d'œuvre doit servir de leçon ou s'il y avait une morale, quelle serait-elle à votre avis?
Ah, peut-être d'encourager les gens à garder le cap d'une forme de dignité, c'est-à-dire d'essayer de se tenir le plus droit possible dans ce monde qui bascule de tous les côtés, quoi. Et qui est à la veille de chavirer même.
Le prochain roman?
Oui.
C'est quand?
C'est septembre 2026. Voilà.
Et
vous voulez le titre?
Ouais, s'il vous plaît.
Le petit cosmonaute.
Parfait, parfait.
Vous pouvez nous lire la première page?
Merci d'être venu à ce micro, en tout cas, et bravo, surtout.
Ouais,
bravo,
merci
bravo.
Ça donne envie de vous lire, ouais.
Absolument.
Merci. Voici Bruno. Lisez la dernière photo, enfin, je le recommande. Pardon, je fais une intrusion, mais je suis l'agent de Franck Cortès. Ouais. Et je vous recommande la dernière photo qui raconte pourquoi il a arrêté la photo et qui est vraiment un livre qui marche avec un pied d'œuvre.
Parfait. Voici Bruno Péquy, donc.
Oui, hommage, Bruno. Les amis, aujourd'hui je remplace Emma Beaujean, qui a pour habitude de rendre un hommage dans cette émission. Et comme ce week-end j'étais en tournée avec un certain Alexandre Kouminek, je vais rendre hommage aux gueules de bois. Si vous connaissez Alex, pas besoin d'expliquer le rapport entre les deux. Et si vous le connaissez pas, vous commencez à vous faire une idée. Alors on a fait la fête avec Coco. En faisant ses premières parties, je pensais gagner en expérience scénique. Et pas du tout. Par contre maintenant j'arrive à boire une pinte cul sec en moins de 4 secondes. Le secret c'est de fermer les yeux et penser à une oie qu'on gave. Clairement ma carrière a régressé. Déjà qu'elle était pas très avancée. Quand Alex m'a appelé il y a 2 ans pour faire ses premières parties, il m'a dit « Tu verras, à la fin de la tournée, tu seras beaucoup plus connu. » Et on a terminé la tournée samedi, donc j'attends toujours. Peut-être qu'il voulait dire connu des serveurs de bar autour des théâtres. Et ça, je confirme, il me demande des nouvelles de ma famille maintenant. C'était intense, ces afters. Non, tu stresses avant de monter sur scène. Moi, je stressais 1h30 après, quand Alex sortait de scène. Ouh là là, c'est maintenant que le vrai test commence. Non, mais franchement, on s'est régalé. Il y a même des célébrités qui sont venues nous voir. Quand on a joué à l'Olympia, il m'a dit « Ne sois pas déstabilisé, ce soir, il y a une grosse célébrité dans la salle. » Je m'attendais à Juliette Binoche ou Kylian Mbappé. Eh ben non, c'était Jean-Pascal de la Starac saison 1. Voilà. C'est des célébrités, mais univers Kouminek. En gros, c'est plus des VIP de la boîte de nuit Le Sphinx à Mérignac que des vraies célébrités. Nagui, vous voyez la liste de personnalités que vous appelez quand quelqu'un annule le matin même et qui vous font un invité en urgence? C'est le même niveau, mais juste en dessous de Berléans. Voilà. Mais bref, les gueules de bois. C'était gratuit, c'était vraiment une balle perdue. Ouais. Bref, les gueules de bois. Je vous en parle parce que je me suis rendu compte sur la tournée, je ne tiens absolument pas l'alcool. Après, me comparer à Alexandre, ça biaise un peu le résultat. Mais sincèrement, je pense que c'est à cause de la différence d'âge. Je faisais la fête avec lui et notre régisseur, mais les deux sont méga vieux, tu vois, ils ont plus de 35 ans. Non, mais eux ont commencé à boire quand ça s'appelait encore des cervoises, tu vois. Maintenant, on est clairement une différence de génération. Les jeunes, on n'a plus l'habitude de boire. Je sais pas si vous avez vu passer l'info, mais l'industrie de l'alcool a perdu plus de 830 milliards de dollars car la génération Z boit 87% moins d'alcool que les précédentes. Et cette info était présentée comme une mauvaise nouvelle. Désastre pour toute la filière de l'alcool. Je veux dire, remplacer l'alcool par n'importe quelle autre drogue et le ministère de la Santé ferait une parade sur les champs pour célébrer une baisse de 87% de la consommation. Et la génération qui boit le plus étant évidemment les boomers, voilà, qui sont sûrement à l'origine de cette étude. Parce que l'étude dit « les jeunes boivent moins ». Alors qu'en vrai, c'est surtout « les vieux boivent trop ». Et ça m'étonne pas, vous foutez de l'alcool partout. Regarde la cuisine française, il y a de l'alcool dans les plats de viande, de poisson, de pâtes, de desserts. Même la banane, vous avez trouvé un moyen de rajouter à boire dessus, quoi. Je parle même pas des babas au rhum. Papy, c'est un alcoolo? Pas du tout, il a la dent sucrée. Alors qu'on sait pas qui est le plus imbibé entre lui et le dessert. En Italie, ils ont l'huile d'olive, en France, vous avez la gnôle. Non, pour ça que les gens perdent du poids pendant le dry January, hein, c'est pas parce que t'arrêtes l'alcool. C'est que si tu veux manger un plat non alcoolisé, il te reste que la salade. Hein, franchement, vous avez mis la barre trop haute. Hein. Les générations d'avant, elles allaient en gueule de bois le dimanche au repas de famille. Nous, on est obligés de pas boire la veille pour se préparer à la cuite du repas du dimanche. Quoi. Je le vois dans l'équipe. Hein. Ici, on fait n'importe quoi. Heureusement qu'il y a que 2 soirées de la bande originale dans l'année parce que je mets toujours 182 jours pour m'en remettre. Ah bah, c'est Nagui qui paye, donc je rentabilise. Hein. Enfin, Nagui qui paye. En vrai, c'est pas à moi de dire d'où vient l'argent, hein. C'est à la commission d'enquête. Franchement, je trouve ça bien qu'on soit une génération qui boive moins. Je trouve ça plutôt sain que quand tu nous parles d'un liquide vert, on pense d'abord au matcha et pas au Jet 27. Après, attention, hein, je dis tout ça parce que je suis en gueule de bois. Je tenais pas le même discours samedi soir au Sunshine à Valence. Tout simplement parce que j'arrivais pas à articuler. Donc c'est décidé, je vais faire le dry February. Voilà, c'est plus court et c'est pour me remettre de mon wet January. Mais pour tout le reste, merci Coco. Et c'est à toi finalement que je rends hommage.
C'était la dernière de Bruno Pecky. Tanguy Bassureau,
de Bruno Pecky sur scène.
Oui, bien sûr.
Samedi, à l'espace culturel de Gento, c'est à Genève, c'est en Confédération helvétique, et le 18 février, au Point Virgule à Paris.
Tanguy, de quoi veux-tu nous parler?
Eh bien, de ce Toulousain qui s'est présenté aux urgences avec un obus dans le rectum, un obus de la première guerre, quand même, plus d'un siècle de plaisir déjà.
Bastien Bouillon et Valérie Donzelli sont nos invités jusqu'à 12h30 pour parler d'un pied d'œuvre. Avec Lisa Delmoitier, Camille Lavabre, Bruno Pecky pour l'instant, Oldelard, Tanguy Pastureau, Daniel Morin.
Bonjour Camille.
Et nos invités Valérie Donzelli et Bastien Bouillon.
France Inter, la bande originale, Leïla Kaddour et Nagui.
Ce film est une réussite. Allez le voir parce que, d'abord, il vous fait prendre conscience de la fragilité de nos vies, de la vie, de la rapidité à laquelle les choses vont et peut-être du temps aussi qui compte pour vivre sa passion. Ne pas se l'interdire parce que c'est le moteur quand même aussi du personnage principal qui, donc on l'a compris, l'histoire véritable de Franck Courtès qui était avec nous tout à l'heure, c'est de se dire ben non, tant pis si j'ai de la réussite, du succès dans ce que je fais, il y a quelque chose que je veux faire avant tout, c'est vital pour moi, il faut que j'écrive, quitte à prendre des risques presque de mettre sa vie en danger.
Oui, c'est-à-dire que d'un coup, c'est ça qui... C'est quelqu'un qui est dans la quête de sens, en fait, et la photo n'avait plus de sens artistique pour lui, et c'est pour ça qu'il s'est consacré à son autre passion, qui est l'écriture.
On se sent bien... Enfin, moi, je me suis sentie pas très courageuse, en fait, en voyant le film. C'est intéressant, ça questionne, de se dire, dans les choix qu'on fait, est-ce qu'on les fait pas aussi un peu par forme de confort, par habitude, par reconnaissance sociale?
Bah, sauf que t'as aucune raison de se sentir ce malaise, étant donné que tu as pris ce risque pour vivre une passion, justement.
Oui, mais c'est que, est-ce qu'une passion, elle peut durer comme ça, éternellement? On peut réinterroger la passion.
Il y a toujours d'autres aspirations.
Parce qu'en fait,
tous les mois de juin, on la réinterroge.
Oui, c'est vrai. Non, mais c'est aussi une note à la décroissance, en fait, à travers ce personnage, de se dire qu'on peut, je sais pas, le jour où tu contractes un emprunt, tu dis waouh, j'en ai pris pour 25 ans et 25 ans d'obligations. Quand tu as des enfants, c'est aussi des. Enfin, je trouve que ça amène à réfléchir sur.
Quel risque on peut prendre
Ou avec quoi on vit de superflu aussi, dans sa façon. Il tient dans son petit carnet comme ça, il recense les dépenses, la sardine, arrêter de fumer, tout ça. Et on se dit, mais oui, dans notre rapport même à la consommation, je trouve que ce film, il interroge puissamment.
Oui, parce que le moindre euro a son poids dans sa vie, dans ses besoins, et est-ce qu'il y a finalement, est-ce qu'on a besoin de ce café supplémentaire ou est-ce qu'on peut s'en passer pour économiser quelques euros pour manger? Il en est là, Bastien, votre personnage.
Oui, parce que les gens...
On le voit, Bastien.
Oui.
Non, mais parce qu'ils sont tous derrière moi, donc j'ai répondu.
Non, allez-y, Valérie.
Vous avez toutes ces phrases, même à l'oral, vous avez ces phrases.
Elle l'a coupée.
Et non, Valérie. Non,
et
non,
4, pardon. 4, 4, 4.
Non, allez-y.
Non, mais c'est horrible.
Ah, oui. Vas-y, Valérie.
Allez, là, il faut finir maintenant.
Non, mais... J'ai cru que tu voulais t'adresser
c'est pour ça que j'ai pris la
parole, mais je te laisse.
Mais non, mais c'est
non, mais le sentiment de culpabilité, pour en revenir à ce que dit Leïla aussi, on peut se poser la question quand on est spectateur de ce film, de se dire, en fonction de sa vie, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai mis de côté comme étant une passion, sans savoir si on peut vivre de sa passion, parce que ça, c'est encore un autre dilemme. C'est le cas pour l'auteur dans le film, mais plein de personnes disent aussi, allez, je plaque tout, j'abandonne tout, je viens chanteur, chanteuse, je m'inscris à Star, et je vais faire une carrière. Et finalement, il se mange un mur aussi. Donc, c'est pas forcément gage de réussite que de vivre sa passion.
Ben oui, c'est vrai, mais en fait, le film ne juge personne. En fait, il y a des gens qui, pour Paul Marquet, c'est une nécessité absolue. Et en fait, le film démarre à un moment où Paul a déjà écrit des livres. Ouais. Donc, il a déjà décidé.
Il ne rapporte pas.
Oui, mais ça, il ne le sait pas tout de suite. C'est-à-dire que le film démarre, il a déjà écrit des livres et il a déjà décidé d'arrêter la photo. C'est juste qu'il vivait sur ses économies. Et en fait, là,
ou sur les avances qu'il avait. Et
sur ses économies, parce que les avances sont très, très petites, en fait. Ah. Il dit, quand on a un avaloir de 3000 euros pour écrire un livre, ben, on ne vit pas un an avec ça. Et donc, un livre, ça prend du temps à écrire. Donc, en fait, là, on rencontre un personnage qui est à un moment charnière de sa vie où il doit réapprendre à vivre avec une autre économie. Et donc, il découvre subitement, en fait, la pauvreté, puisqu'il n'a plus du tout de ressources. Mmh. Et il doit en avoir pour pouvoir continuer d'écrire et rendre ce fameux texte qui n'est pas complètement accepté. Et manger à côté. Donc, il est, tributaire de ces plateformes.
Et le regard des autres aussi. C'est-à-dire, comment il trouve sa place dans la société, comment sa propre famille le juge, comment ses amis, devenus clients d'un Uber le temps d'un soir, le regardent avec cette espèce de gêne. Bah, on va aller prendre un verre, mais c'est moi qui paye, je te rassure, raconte-moi ta vie. Enfin, tout ça est très...
Oui, tout est très imbriqué. Mais comme vient de le dire Franck Courtès, là, quand il parlait de lui, il disait parfois, je faisais des choses tellement faciles à faire, j'avais l'impression de voler le... Si vous voulez, il a une espèce...
Alors que c'était 20 balles la journée, quoi.
Il a une espèce, ce personnage, et donc... il a une espèce d'acuité à l'autre être humain. Moi qui ai enregistré le livre de Franck Courtès à pied d'œuvre pour Gallimard, je me rappelle d'un moment où il commence, parce que vous venez de parler du café, Nagui, où il commence à parler que ses habitudes changent et que donc, tous les matins, il allait boire un café et que maintenant, il n'a plus l'argent. Et il passe plus devant la brasserie parce qu'il a peur
de tenter.
Que le patron pense qu'il ait changé de crèmerie.
Okay.
Si vous voulez, il a une acuité aux autres êtres humains et donc il fait ou un petit détour ou il change de trottoir ou ceci ou cela parce que il a un truc profondément humaniste en lui. Donc oui, il y a le regard des autres change sur lui et lui. Son regard qui change sur tout en même temps. Je sais pas si
c'est très clair ce que tu dis.
Absolument.
D'ailleurs, ça, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup et que je n'ai pas gardé dans le
au montage. C'est votre jeu.
Oui, non,
votre jeu. J'aimais beaucoup votre jeu et on l'a enlevé au montage.
Mais non, mais laissez-moi parler parce que c'est pas du tout ça que je dis. Ça, c'est pas gentil. On ne m'imite pas comme ça. En revanche, ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose que j'aurais voulu garder du livre que je n'ai pas gardé dans le scénario. Ouais. Parce que je ne pouvais pas tout raconter, mais il y a plein de choses comme ça dans le livre. C'est pour ça que c'est intéressant de lire le livre, parce que le livre reste un texte extrêmement puissant. Et moi, j'ai juste réinterprété ça par le cinéma. Donc, je ne pouvais pas tout raconter non plus.
Ce film est une réussite avec votre travail, celui de Bastien Bouillon. Comment, Valérie, vous expliquez le fait que Bastien soit méconnaissable dans tous les films? C'est-à-dire que chaque fois, je crois avoir vu tous les films dans lesquels il joue, chaque fois, je mets 10 minutes, un quart d'heure pour me dire c'est lequel. Je sais qu'il est au casting, je sais qu'il est quelque part dans le film, et je ne le reconnais pas.
Parce que t'es à l'âge, il faut acheter des lunettes pour ça, vraiment.
Mais vous voyez ce que je veux dire, Valérie ?
Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois que Bastien a une espèce d'intérieur, il est puissant de l'intérieur, enfin, ces personnages existent de l'intérieur, en fait. Rien n'est... démonstratif, ou c'est, je sais pas comment l'expliquer, c'est son talent, tout simplement, quoi. C'est quelqu'un qui arrive à disparaître complètement derrière le personnage. Et on ne voit plus Bastien, on voit le personnage.
Et j'en vois pas d'autres dans le cinéma français capable de le faire aussi bien et aussi fort. On est d'accord.
Peut-être parce qu'il n'est pas au premier rang des défilés Jacquemus.
Pas encore.
Mais arrête de critiquer Jacquemus.
Ouais. Non, mais je dis Jacquemus, je pourrais dire autre chose. Non, mais peu importe. c'est intéressant de se dire à quel moment l'acteur reste pour aussi le spectateur, pas que pour le réalisateur, une surface de projection où on voit autre chose que quelqu'un qui fait de la pub. Et je critique pas ceux qui font de la pub.
Non, mais d'ailleurs,
à titre individuel, moi, les comédiens qui m'enchantent aussi, c'est les comédiens sur lesquels je projette absolument rien. Oui. Et c'est peut-être aussi pour ça que Bastien Bouillon, on le voit pas dans les films, on le voit sans le voir, en fait.
Oui, je suis d'accord, mais d'ailleurs, Jacquemus n'a pas des géris. Il n'y a pas personne. Non,
mais j'aurais pu donner n'importe quelle marque.
Non, mais c'est intéressant parce que Jacquemus, pour le coup, il est à l'endroit, artisanal d'auteur de la mode. Ouais. Il est tout seul, il a fait ça tout seul. Et il a du succès aujourd'hui, mais je veux dire, il appartient à aucun groupe. Mm. Et sa seule égérie officielle aujourd'hui, c'est sa grand-mère.
Mais il a des personnalités en première rang, c'est défilé.
Oui, mais ça, c'est le jeu. Non, mais je dis le jeu du défilé.
En tout cas,
il a rien demandé, Jacquemus.
Si cette émission, on ne reçoit pas un sac chacun, franchement, je ne comprends plus rien.
D'ailleurs, s'il cherche une égérie.
Bonne idée.
Bah qu'il continue. Voici Tanguy Passion.
Bien, une semaine que mon anniversaire est passé et toujours rien au sein de l'équipe. Oui, oui, c'est un running gag poussif. Ah, ce gag, il est tellement running qu'il va se retrouver sur Strava. Ah, mes amis, peuple de gauche, mais toi aussi, Daniel. Il faut que je vous raconte un truc. Hier, je suis tombé sur un article de la Dépêche du Midi dont je vous lis le titre. Toulouse, 2 points, impatience présente aux urgences avec un obus de 1918 coincé dans le rectum. Premier réflexe, objet historique. Je me suis dit, Stéphane Bern est parti en soirée moite avec Franck Ferrand et Bruno Solo. Il a visé gros en prenant l'obus. Les autres plus raisonnables ont dû se coincer dans le rectum un carré de mosaïque romaine ou une cotte de maille du Moyen-Âge roulée dans son étui en daim. Mais Stéphane Bern ne pouvait pas être à Toulouse. Il fait Danse avec les Stars à Paris. Je sais pas pourquoi, il tenait à se faire humilier. C'est donc un inconnu qui a fait ça. Bref, quand j'ai lu ça, je me suis dit c'est pour moi. Parce que la promesse est forte. Il y a tout ce qu'aime le public. L'histoire avec un grand H et le rectum avec un grand Q. Donc j'envoie un SMS à JB, le rédac-chef de la bande originale. Un homme au regard usé et au physique malingre, mais qui reste étonnamment perspicace malgré sa dépression. Et là, véridique, il me répond « T'avais pas déjà fait un sujet là-dessus ?» Ça m'a vexé parce que je me vois comme l'intellectuel de l'humour français. Le niveau n'est pas fou, hein, c'est pour ça. Mais selon JB, je passerai ma vie à parler d'obus dans des rectums. Hein, aussi fébrile qu'un journaliste du Média Frontières qui tomberait dans un quartier populaire dont on aurait fait sortir tous les noirs pour lui faire un canular, je me suis rué sur mon ordi et j'ai fouillé dans mes chroniques en tapant le mot-clé « rectum ». Bon, si j'avais été Jeffrey Epstein en 2002 et que j'avais fait ça. L'ordi m'aurait sorti 3000 photos du rectum du prince Andrew à cheval sur Trump, qui tente des Kinder Pinguis à des gosses en leur disant « Petit, 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 il est où Jack Lang ?» Mais moi, ma vie... regardez, ma vie est plus classique à moi, parce que j'ai horreur des enfants. Voilà, c'est moi qui ai soufflé à Jean Castex l'idée de leur interdiction dans le train. Au départ, je demandais même à ce qu'on les jette sur la voie, sur la ligne Paris-Limoges, puisqu'elle est en jachère. Le train de 11h26 arrive à 17h02, ils auraient eu le temps de fuir, quoi. Et là, je n'ai pas trouvé de chronique de moi concernant un obus coincé dans un rectum, ce qui est pire. Parce que sans que j'ai eu à dire ça un jour, JB m'attribue ce genre de blague. Si ça se trouve, pour lui, le lâcher de salope, c'est de moi aussi, ainsi que les discours d'Adolf Hitler, ce monsieur ne retient rien de positif de moi. Mais bon, j'ai quand même fait des recherches, j'ai tapé sur ChatGPT obus plus rectum, et il m'a répondu jeu des conseils, puis il a fouillé en ressources pour savoir qui s'était un jour assis sur un obus, j'ai claqué l'équivalent de 200 mètres cubes d'eau, un Léon Marchand bientôt sera debout dans une piscine vide, ce sera de ma faute, et en fait, il y a plein d'exemples. On peut même dire que ça fait partie de la culture française désormais, comme la blanquette ou la délation. En 2022 déjà, à Toulon, un homme de 88 ans s'était présenté à l'hôpital, là aussi, avec un obus de la Première Guerre mondiale coincé dans le rectum. En fait, cette guerre, dans un premier temps, a détruit des villages des environs de Verdun et dans un second temps, des rectums. Et je ne pense même pas qu'on puisse se retourner vers les Allemands pour râler, parce que les Français qui font ça sont volontaires. Hein, je ne juge pas, je suis ouvert. Il y a 2 jours, j'ai même salué un rasta blanc. C'était soit ça, soit ils ne mettaient pas le son dans la salle parce qu'ils sont tous régisseurs. Mais comme le dit Holdelaf, sur le net, il y a des centaines d'objets pour se faire plaisir. Qu'est-ce que tu vas faire ça avec un obus ? Je veux dire, si c'est le frisson du danger, le fait qu'il peut exploser, dans ce cas, il suffit de s'asseoir dans un fauteuil électrique acheté sur Chine. Normalement, tu appuies sur on, il explose. Et les 4 secondes avant, au moins, auront été placés sous le signe du confort. J'ajoute qu'en Angleterre, il y a 2 ans, un autre homme avait fait ça avec un obus de la Seconde Guerre, cette fois. La tendance est donc globale. Peut-être que des Russes, actuellement, s'enfoncent des boulets de canon napoléoniens. Je sais pas, mais je suis en train de me lasser fortement de l'époque dans laquelle on vit. Parce qu'encore une fois, je ne juge pas. Mais à terme, si le phénomène prend de l'ampleur, il suffit que Thibaut InShape en vidéo se colle un obus à l'arrière en disant que ça détend. Nous connaîtrons tous une personne qui en a un dans le rectum. Mais ce sera celle qui, à la visite médicale de la boîte, aura 20 kilos de plus que la fois précédente. Alors, suite de l'histoire à Toulouse, l'hôpital a quand même été obligé d'appeler les démineurs qui n'avaient jamais vu ça. Sur 4, il y en a 3 qui ont démissionné en disant le métier n'est plus le même. Et les forces de l'ordre ont demandé à l'homme en question pourquoi il avait fait ça. Oui, parce que c'est absurde. Ça revient à voter LFI si tu fais du business entre Paris et Tel Aviv. Et je vous lis l'article. Le patient a dit s'être introduit le bus sans savoir de quoi il s'agissait. Et ça, c'est encore plus grave. Parce que, il y a 10 jours, j'ai emmené ma nièce au zoo. Il y avait un ornithorynque. C'est la première fois que j'en voyais un. Bon, bah, je me suis pas approché de l'animal en moonwalk tout en retirant mon slip et en disant à l'ornithorynque, mon coco, ce bec de canard sur un corps de loutre va être mon passeport pour des sensations nouvelles. Hein, je savais pas ce que c'était, donc je l'ai laissé tranquille. C'est pour ça que je suis contre la guerre, parce que ça fait des morts, bien sûr, beaucoup de morts, mais aussi parce que je pense au système de santé des pays concernés. Si en Ukraine, ils en prennent pour 80 ans d'admission aux urgences d'habitants de Mariupol, avec dans le rectum les obus de Poutine. Certes, on pourra dire que Poutine est entré dans l'histoire, et ailleurs aussi. Mais la question de la dignité se pose. Quel monde allons-nous laisser à nos enfants? Une planète trop chaude, où la Normandie sera sous l'eau, et où les derniers obus des plages du débarquement seront dans les touristes? Je sature. PS, JB avait raison. Le 2 janvier 2023, j'ai fini par trouver, j'avais évoqué l'homme de Toulon de 88 ans et son obus dans le derrière, mais seulement 10 secondes. Hein, jamais j'aurais fait une chronique entière là-dessus, évidemment. Jamais je fais ça.
Ça te ressemble pas. Merci.
Tanguy Pastureau sur scène, celui qu'on surnomme l'armurier, il sera à Lille le 11 février prochain.
Valérie Donzelli et Bastien Bouillon sont nos invités pour À pied d'œuvre, le film formidable sort ce mercredi au cinéma. D'autres événements culturels, Leïla.
On cherche une saga qui fête cette année son 50e anniversaire, une saga américaine sur grand écran, non, en 7 volets. Le premier est sorti en 76, il se déroule au sortir de la guerre du Vietnam et dresse le portrait d'une Amérique prolétaire. Le héros, pauvre, fort peu héros en ce moment, aurait dit un auteur, et tombe amoureux d'une fille, mais une fille mal peignée, binoclarde, assez moche en fait, et pourtant elle sera un ressort essentiel dans cette saga. Il était surnommé l'étalon italien.
Rocky.
Rocky,
c'est la boxe, donc c'est Rambo.
Ouais. Donc c'est Rambo. Si c'est le Vietnam, c'est Rambo. Si.
Non, mais le premier opus de Rocky, c'est au sortir de la guerre du Vietnam, dans cette Amérique-là, en fait. Non, c'est pas le thème. Il va y avoir un film qui va retracer le parcours de Stallone, cette fois-ci, attention, voilà. En novembre, I Play Rocky. Et l'idée, c'est de raconter comment, début 75, Stallone a 29 ans et complètement fauché, toujours paralysé du visage, lié à sa naissance. Il écrit en fait le scénario de Rocky, un scénario qu'il refuse de vendre à des gros studios contre des gros chèques. Pourquoi ? Parce qu'il a une condition sine qua non, il veut jouer dedans. Et on ne voulait pas de lui. Pourtant, ce premier film sera oscarisé à 3 reprises en 77, à un moment où lui était à la limite d'être SDF, où il avait tourné dans un film érotique. Il n'avait pas grand-chose à son actif et pourtant l'avenir a souri à son histoire.
Il a tourné dans un film érotique.
Oui, ouais. Ses débuts. Et pas pornographique, mais érotique.
Ça s'appelle Rocky Mountain.
Et quand on voit le chemin en fait, et l'itinéraire de ce personnage et de Rocky, c'est aussi une sorte de cartographie des États-Unis. Comment au début, ce héros qui galère, qui accepte finalement la chance de sa vie, et ça c'est l'Amérique qu'on nous a vendue pendant très très longtemps, c'est que tout est possible, qui accepte ce combat. Il s'est inspiré de Mohamed Ali qui avait combattu un jour contre un boxeur qui n'était pas du tout connu du grand public. Et il s'est dit, voilà, je vais mettre en scène un boxeur, le plus grand boxeur, et je vais accepter de boxer contre lui, et peut-être, et on connaît le film, on voit comment il est complètement déchiré, il est complètement détruit physiquement, mais il accepte d'y aller, il reste debout, cette Amérique qui reste debout au sortir de la guerre du Vietnam, et surtout qui crie son amour à Adrienne. C'est vrai que c'est un personnage inattendu, Adrienne, elle est pas, on la voit pas, on se dit pas on va tomber raide dingue amoureuse d'elle, en fait non, elle est juste ce que Rocky a besoin de crier à l'Amérique, je suis là, j'ai un cœur battant, je suis amoureux et je vais continuer à me battre. Et en fait, si vous suivez tous les Rocky, ensuite il devient une sorte de star, un peu bodybuildé, qui prend soin de son corps. Et on voit toute l'évolution un peu capitaliste, ultra-libérale des États-Unis. Bref, Rocky est célébré cette année. Est-ce qu'il y a une saga comme ça de l'enfance qui compte pour vous, que vous revoyez de temps en temps, un héros comme ça qui est populaire et qui peut avoir incarné quelque chose d'important pour vous, Bastien ?
Non.
Non.
Merci.
Il n'y en a pas ?
Non.
Un héros de la littérature, du cinéma, qui a été un personnage qui tout d'un coup, auquel vous auriez pu vous identifier ?
Non, désolé, pardon. Hein,
non, c'est pas grave. Non. Un personnage, même pas de littérature, auquel vous vous êtes attaché, qui veut dire quelque chose.
Pas Martin.
Non, mais je suis pas Martin Eden, mais je m'y suis pas attaché enfant. Ouais. Mais, oui.
Plus grand.
Là, pour et on retombe sur l'écriture d'ailleurs avec Martin Eden de London. Voilà.
Et vous, Valérie?
Moi, je me suis attachée quand même à Antoine Doinel.
Ouais.
Dans les films de Truffaut.
Parce qu'on l'a vu vieillir aussi.
Oui, parce qu'on l'a vu petit dans Les 400 coups, et puis après dans Baiser volé, dans Domicile conjugal, dans Colette et François, c'est Colette et François, je ne sais plus. Bref, enfin voilà.
D'où l'inspiration dans À pied d'œuvre sur ces scènes où on voit les pieds passer, les jambes passer à la Truffaut.
Non, en fait, c'était pas tellement par rapport à Truffaut. C'était surtout que je trouvais ça dans le livre. Il dit qu'il a un studio en rez-de-chaussée et moi, je voulais qu'il soit vraiment
en dessous encore
vraiment au ras du
symboliquement.
Sol. Et effectivement, c'est aussi ce qu'on voit dans Vivement dimanche, le bureau qui est. Du sol.
Autre question, on cherche un cinéaste qui a décidé de s'expatrier en Nouvelle-Zélande parce que pour lui, vivre aux États-Unis sous Trump, cela revient à, je cite, regarder un accident de voiture en boucle.
Ah mais c'est pas Cameron, non.
Absolument, c'est James Cameron. En effet, la Nouvelle-Zélande était un indice puisque c'est là qu'il a tourné Avatar, notamment, une de ses sagas de science-fiction qui cartonne. Le réalisateur de Terminator et Titanic se disait incapable de continuer à vivre dans un pays où on réfute la science, où on est confronté à du non-sens en permanence. Si vous deviez partir quelque part, ça serait où votre Eldorado à vous ? C'est pas forcément changer de pays, ça serait où votre cache, votre planque ?
Non mais déjà c'est courageux, enfin je trouve
de partir.
Ouais.
Il y en a plein qui le font.
Je sais pas non mais
c'est courageux, c'est pas compliqué pour lui de partir non plus, ce que j'ai envie de dire.
Ah ouais, oui, peut-être bien. Peut-être bien. Oui. Mais... Non mais je sais pas. L'Espagne a l'air
plus
accueillante.
Ah oui, l'Espagne, là, c'est bien.
Sur quel aspect l'Espagne?
Bah ils ont donné des papiers.
500 000.
Ouais, c'est super. Moi, je comprends pas pourquoi on donne pas des papiers à tout le monde. Qu'est-ce qu'on s'en fout de... Enfin, c'est complètement absurde, cette idée de... On est français, on a notre pays. Enfin, je veux dire, on partage, quoi. Enfin, je comprends pas.
Dans un contexte économique compliqué, je pense que c'est ça.
Oui, puis c'est le monde. Je veux dire, le monde, il est fait de mélange. Et la beauté, elle est faite de mélange entre soi-tu. On n'en peut plus, en fait. Faut arrêter avec cette folie-là, quoi.
À pied d'œuvre, le film sort ce mercredi. Bastien Bouillon, tout à l'heure, vous avez évoqué un film que vous allez réaliser.
Oui, tout à fait.
Il va s'appeler comment ?
Je sais pas encore. On a un titre provisoire, mais comme je ne l'affectionne pas particulièrement, je préfère le taire. Voilà.
Et c'est jouerez dedans aussi ?
Non, pas du tout. Non. Je vais tâcher déjà de diriger. Parfait. Des
Toujours à l'affiche de l'affaire Bojarski, dont on a parlé à ce micro de Jean-Paul Salomé.
Un carton.
Super film. Et puis, on vous verra également dans une autre histoire de Michael Herz et Histoire de la nuit également.
De Léa Missus.
Voilà. Quant à vous, Valérie, on vous retrouve comme actrice dans, avec Jalil Lesper dans Les jours d'après.
Oui, de Stéphanie Pilonka.
Et vous allez tourner dans Claude, le prochain long métrage de Clément Michel, aux côtés d'André Dusselier
et Kian Kojandi.
Très bien.
Et je vais mettre en scène une pièce de théâtre.
Qui s'appelle ?
Qui est la pièce de Delphine de Vigran, Les Figurants.
Ah, très bien. Ouais. Delphine que nous recevrons dans une quinzaine de jours son nouveau roman. Des excuses à présenter Daniel Morin.
Désolé pour Bastien Bouillon, j'ai eu l'amicale des apiculteurs français en colère qui ont mal pris l'incitation au viol de miel.
Mais Daniel...
Quelle
horreur.
J'ai une autre vision.
Bastien, faites gaffe, il y a deux mecs en combi blanche, Winnie l'ourson et des flics qui vous attendent à la sortie du studio. Et enfin, désolé pour Bastien Bouillon encore une fois, dont les phrases ont été coupées dans le film et dans le studio par la réalisatrice. Qu'en pensez-vous, Bastien ? On vous écoute, Valérie.
Merci, Valérie.
Je dois me justifier.
Merci. Non, évidemment, c'est qu'une vanne. Merci à tous les deux et bravo à pied d'œuvre et au cinéma. Merci à toute la bande originale et spéciale dédicace à Rémi qui a assuré la mise en place dans ce nouveau studio en attendant les travaux.